Radio Canut vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Pierre. Production. Mise en scène. Julien Jean-Pierre. Enregistrement. CVRP. Du bruit du côté de la chambre de sa mère. Il sort de sa chambre. Et ouvre la porte de la chambre de sa mère. La pièce est sombre. Les volets n'ont pas été ouverts, mais elle reconnaît, habillée de blanc, Félix, qui fouille dans l'armoire. Qu'est-ce que tu fais ? Il se retourne, t'occupe. Il voit qu'il a une vieille boîte à gâteaux en aluminium. Tu viens encore prendre de l'argent, hein ? Il ouvre ses épaules, ouvre la boîte pour prendre des billets. Il remet la boîte sous les draps. Puis ferme l'armoire. Tu as encore perdu au jeu ? Ça ne te regarde pas. Je dirai à maman que tu lui prends de l'argent. Il s'avance vers elle. Et lui dit : si tu lui dis, je dirai ce que tu fais avec ton frère. Elle hausse ses épaules. Nous ne faisons rien de mal. Ça, c'est toi qui le dis. Et puis chausse-toi, tu es nippier. Il la bouscule et sort de la chambre. Où vas-tu ? Là, on ne pose pas de questions. Elle l'entend qui descend des escaliers. Une porte s'ouvre. C'est Pierre. Que se passe-t-il ? Rien, ton frère est parti. Elle va vers lui. L'embrasse sur la joue. Elle est habillée d'une chemise de nuit blanche, grande, mince, les cheveux bruns pendants et à 15 ans. Son frère est plus petit qu'elle, de taille et d'âge. Il a 14 ans. Il a des cheveux bruns. La peau d'une blancheur transparente. Il est lui aussi en chemise de nuit. « Tu viens ?» dit-il. « Je n'ai pas le temps. Je dois réviser avant d'aller à l'école. » Il lui prend la main et lui dit « Oh, viens, je t'en supplie. Il fait si froid. »« Bien, mais je ne reste pas longtemps. » Et ils entrent dans sa chambre. Thank you. C'est une petite pièce avec un lit en fer à une place, des draps et des couvertures défaits. Il y a une vieille armoire 1920, une chaise en paille et contre mur une petite table avec dessus en vrac des livres et des cahiers d'école mélangés avec des billes, auto, miniatures et toupies. À terre se trouvent en paquet les habits. Comme dans toutes les pièces de la maison, la fenêtre n'a pas de rideau. Pierre se couche sur le paquet de draps et de couvertures. Sa sœur se met à côté de lui. Il pose sa tête sur sa poitrine. Elle lui caresse les cheveux. « Qu'est-ce que tu veux savoir ? Parle-moi de quand nous serons riches. » Elle sourit et commence. « Quand nous serons riches, nous déménagerons d'ici. » Pourquoi ? Parce que les gens qui vivent ici savent que nous sommes pauvres et quand nous serons riches, personne ne doit le savoir. Nous habiterons où ? Je ne sais pas. Peut-être à Paris. C'est quand que nous serons riches ? Peut-être l'année prochaine. Ce sera une bonne année pour être riche, 1925, le quart d'un siècle. Elle regarde sa montre. Je dois me préparer. Avant de partir, embrasse-moi. Elle lui donne un baiser sur la joue. Non, pas comme ça. Tu sais qu'il ne faut pas. Il hausse ses épaules et se pend à son cou. Elle lui donne un baiser sur la bouche. Puis se lève. Elle lui demande. Tu ne te lèves pas?
Non, tout à l'heure. J'attends que maman revienne.
Et elle sort de la chambre en courant. Et entre dans la salle d'eau. Se trouve un lavabo, une baignoire. Elle quitte sa chemise de nuit. Elle est nue. Prend le broc et verse dans le lavabo l'eau. Une heure plus tard, elle sort de la maison, habillée d'une petite robe blanche et d'un chapeau de la même couleur. Elle a à la main son cartable. La maison de l'extérieur est cossue. Elle a 3 étages d'un style incertain et construit au 19e siècle. Devant la maison se trouve une terrasse. Elle est au fond d'un petit parc non entretenu.
Poussez-vous un petit peu, s'il vous plaît.
Stéphanie ouvre le portail et se trouve sur la route. Elle va aller chercher son car pour aller au lycée à Paris.
Bonjour.
Pierre est dans son lit et s'amuse à faire des grimaces aux rayons du soleil qui traversent les fenêtres du volet pour venir lui dire bonjour au lit. Il a eu une méningite lorsqu'il était enfant et cela l'a rendu un peu simple d'esprit. On le garde à la maison car il n'a pu suivre des études. Il entend la porte d'entrée qui vient de s'ouvrir. Cela le fait rire et fait semblant de dormir. Des pas de sa mère qui monte à l'étage. La porte de sa chambre qui s'ouvre.
Tu es encore au lit, Pierre ?
Il ouvre les yeux en souriant. Madame Durel est de taille moyenne. Elle a les cheveux gris qu'elle porte en chignon. Les traits de son visage sont ridés. Elle est habillée d'une petite robe noire. Elle s'approche de son fils.
Allez, il faut te lever maintenant.
Madame Durel est veuve de guerre et ruinée. Elle et son mari ont fait un mariage d'amour, ce qui n'a pas plu à la famille de son mari, car elle était pauvre. À la mort de l'époux, on lui a laissé que cette vaste maison dont on ne savait quoi faire. Pour gagner sa vie, elle fait des ménages chez les gens du quartier, ce qui fait que la famille est regardée avec dédain et même mépris, aussi à cause du fils aîné qui passe ses journées aux courses et à se droguer. Ou plutôt, si l'on veut, à soigner ses nerfs à l'opium. Stéphanie sort de son école privée où elle n'a pas d'amis, car c'est la seule fille pauvre de l'établissement. Cela la rend fière et hautaine vis-à-vis des autres. Paris est chaud en ce mois de juin, et elle a hâte de rentrer pour boire une orangeade. Elle n'a pas d'argent pour aller au café, et puis même si elle en a fait, elle n'a personne pour l'accompagner. En passant sur les quais, elle aime bien regarder et fouiller chez les bouquinistes. Bien sûr, elle ne peut acheter, mais elle voit les couvertures et touche les livres. Trouve au milieu de ces livres d'occasion un livre neuf, Le diable au corps, le tourne, l'ouvre, on a plus ou moins entendu parler, une page, cela lui met le feu aux joues, soupire et le repose. Je crois que ce livre vous a plu, mademoiselle. Elle lève la tête et voit un homme dans les 25 ans. Grand, mince, les cheveux châtains, le visage aimable. Il porte un costume gris et une très belle coupe. Son regard et son élégance l'attirent. Surtout qu'il semble très viril. Pourquoi ne l'achetez-vous pas? Si vous voulez, je peux vous payer. Elle se sent chaleur dans son ventre. Elle aimerait qu'il s'occupe d'elle. Oui, je veux bien. Il sourit, prend le livre, le lui tend et donne un billet au bouquiniste sans chercher à avoir la monnaie. Vous me remerciez. Vous allez accepter de prendre un verre avec moi? Je veux bien. Elle meurt de soif et a envie de rester avec l'homme. Elle est trop jeune et pas assez d'expérience pour voir que l'homme est aussi attiré par elle. Elle, elle sent seulement qu'elle l'est pour lui. Se dirige vers les boulevards. Je m'appelle Romain Landry. Et vous, Stéphanie Durel, vous êtes de Paris? Non, de la banlieue. Je viens tous les jours pour mes études.
Poussez-vous légèrement, s'il vous plaît. Hein? Poussez-vous un petit peu, s'il vous plaît.
Ils sont entrés dans un grand restaurant. Ils sont assis d'un côté de l'autre. Il s'est mis tout contre elle. Elle sent sous les vêtements la chaleur de ses cuisses. Que voulez-vous faire plus tard? J'aimerais être professeur de français et écrire des romans. Ils ont commandé deux orangeades qu'ils boivent lentement. Il sent son corps penché de plus en plus près sur elle. Cela l'étourdit. Ce n'est pas la même chose qu'avec le petit frère. Le petit frère le domine, tandis que lui vous domine. J'aimais beaucoup les livres, oui. Votre mère vous laisse lire tous les livres sans exception, oui. Il a passé son bras derrière ses épaules.
Tu veux dire conception.
Mais il est intimidé par les gens. Une fois qu'ils ont bu leur verre, vous voulez boire autre chose?
Alors,
non, merci. Se sont levés.
Travail d'artiste, travail. Le mot est lâché. Crois-tu sincèrement?
Poussez-vous légèrement, s'il vous plaît. Poussez-vous un petit peu, s'il vous plaît.
Puis, on marchait. Arrivé devant une maison, j'habite ici. Si vous désirez monter. Non, je ne peux pas. Ma mère m'attend. Mais demain, je termine mes cours plus tôt. Je veux bien, à 15h ici. Bien. Il lui tend la main qu'elle prend. Et il entre dans son allée. Elle soupire. Elle se dit. J'ai accepté ce rendez-vous, mais je sais pourquoi il m'a invité. Je suis une fille lucide, je sais ce que je veux. Arrivée chez elle, elle retrouve sa mère à la cuisine à préparer le repas. La mère demande « Tu as vu Félix ?»« Oui, ce matin. Il te prenait de l'argent. » La mère soupire. « C'est un malade. Il a besoin de cette drogue. Tu comprends ?»« Pourquoi ne caches-tu pas ton argent ?» Elle met les assiettes sur la table. Et dit, ce sera encore pire. Il viderait tout pour le chercher et casserait tout le peu que l'on a. La fille l'aide. Et dit, il devrait travailler. Il ne peut pas, il a toujours ses douleurs au ventre. Et qu'en dit le médecin?
C'est dû à la naissance, il avait de l'eau. Va chercher Pierre, et ne joue pas avec lui. Il est trop grand maintenant pour certaines caresses.
Non, elle n'a pas envie de jouer avec Pierre. Son corps est attiré par l'homme de cet après-midi. Elle sort de la pièce. La mère soupire et se dit qu'elle n'a pas de chance. De ses trois enfants, il n'y en a qu'une qui est normale.
Moi je n'en sais pas. Les petites misères seront passagères, tout ça s'arrangera.
15h. Elle le retrouve devant l'humeur. Il lui tend la main et lui dit bonjour, et ils entrent dans l'immeuble. L'allée est en marbre, ils prennent l'ascenseur jusqu'au troisième. Il ouvre la porte de son appartement. C'est un F2, tout blanc et or, avec des meubles japonais. Elle est contente de voir tout ça. Il la fait entrer au salon. La fait à tout soir à terre sur un coussin de soie rose. Vous voulez boire? Oui, une orangeade. Il la serre. Elle voit qu'il semble nerveux. Elle se sent bien. Une fois qu'elle est bue, s'est assis à ses côtés, lui prend les mains et les lui embrasse tout doucement, puis lui embrasse le cou, les joues et même les lèvres. Elle se laisse faire et attend. Il se lève, lui tend la main. Venez. Elle se lève et il la conduit dans sa chambre. Là, debout, au milieu de la pièce, il la déshabille délicatement. Elle sent à peine le bout de ses doigts sur sa peau. La pièce baigne de soleil. On entend le bruit de la ville. Elle le regarde faire. Elle le regarde faire. Une fois nu, il lui caresse ses deux seins et deux seins s'élèvent le long de son corps jusqu'au bas-ventre où il aspire les poils noirs de son bas-ventre. Elle a froid et chaud où les lèvres se posent. Puis, il la porte et l'allonge sur le lit. Et il se déshabille.
sait déjà ce que c'est qu'un homme. Pierre en est presque un, mais lui a une touffe beaucoup plus touffue vers son sexe et qu'il a énorme et qui semble raide comme du bois. Il se penche vers elle, la baise, le regarde, rougit. Tu sais ce que tu veux? Oui, tu veux? Oui. Alors, il la prend. Elle a eu mal, puis la douleur s'est transformée en plaisir. Elle est restée les yeux ouverts pour le voir. Lui ne la voit plus, il est aveuglé par le plaisir. Puis leurs corps allongés se sont reposés l'un côté de l'autre, en sueur dans la lumière du soleil. La rue. Puis elle a dit, je dois partir, et elle s'est levée. Où est la salle de bain? Il s'est levé pour le lui montrer. Avant de se quitter, ils se sont donné rendez-vous pour le lendemain. Elle est satisfaite, elle aime ça, mais ne pense pas une seconde à l'amour. Elle a beaucoup de choses en tête. La vie est pleine de choses à apprendre. Et il faut faire sa place au soleil. En entrant chez elle, elle retrouve sa mère au salon.
« Tu n'es pas en avance. Qu'as-tu fait ?»«
J'ai discuté avec une camarade. »«
Va voir Pierre. »«
Qu'est-ce qu'il a ?»«
Il n'est pas bien. »
Elle quitte sa mère et monte à la chambre de son frère. Pierre est la seule personne qu'elle aime vraiment. Elle entre dans sa chambre. Les volets sont fermés, il est au lit.
Ça ne va pas. C'est toi, Stéphanie.
Elle s'approche du lit.
Oui, c'est moi. Qu'as-tu?
J'ai mal à la tête. Elle s'allonge près de lui, dessus les couvertures. Il est dans les couvertures. Elle lui masse le front.
Ça va mieux comme ça?
Oui, masse-moi de partout. Stéphanie lui déboutonne la veste de son pyjama et lui masse la poitrine. Elle la trouve douce et chaude.
Mais c'est la tête où tu as mal.
J'aime bien quand tu me masses la poitrine. Il se détend
et il ferme les yeux. Elle masse plus bas jusqu'à la taille. Elle sent qu'il serre légèrement les jambes. Elle les desserre. Elle lui met la main à travers le pyjama sur le sexe qu'elle sent bandé. Elle se penche et lui donne un baiser sur la joue. Tu bandes, petit frère? Tu es ma grande sœur? Elle lui caresse les fesses. Il faut nous lever. Allez. Non, non, j'ai mal à la tête. Et puis Frédéric n'est pas gentil avec moi. Il fait que de me battre. Ne crains rien, je suis là. Ne crains rien, je suis là. Et elle se lève. Allez, lève-toi, paresseux. Il se lève et ils sortent de la chambre. Le lendemain, il est venu l'attendre à la sortie du lycée. Ils se sont simplement dit bonjour et sont allés à son appartement. Mais il va tout simplement comme si elle allait chez elle. À peine arrivée, il la déshabille. Elle aime cette fougue sans préambule. De toute façon, elle ne l'aime pas. Ce qu'elle aime en lui, c'est qu'il la fait frémir dans tout son corps. Ce n'est pas comme avec son frère qu'elle aime, où tout est douceur et jeu. Les semaines passent, ils se voient tous les jours après l'école. Lui ne la voit pas comme elle est. Il est d'abord ému de ce qu'elle est, sa jeunesse. Et qu'elle accepte d'être sa partenaire de cela, il en est très reconnaissant. À l'aimer, son corps si doux, si délicat, puis son silence, cette soumission qu'il prend pour de la timidité, il pense qu'elle l'aime aussi. Après-midi, avant de se quitter, il lui dit « Je t'aime, tu sais. Si tu veux, nous pouvons nous marier. Vous ne savez même pas qui je suis. Je m'en moque. Si tu m'aimes, vivons ensemble. » Elle hausse ses épaules. « Je suis trop jeune. Fiançons-nous alors. » Elle hausse ses épaules. « Il faudrait que je puisse vous aimer. Vous ne m'aimez pas. J'aime faire l'amour avec vous, mais j'aime une personne qui souffre. » Qui est-il? Ne soyez pas jaloux, nous ne pourrons pas nous marier. Et puis, il est encore plus jeune que moi. Il s'aperçoit qu'elle est vraiment jeune. Donc, il se dit que plus tard, elle l'aimera et qu'il faudra être patient. Je serai patient et attendrai. Il l'embrasse sur la joue et lui dit « À demain ?» Oui, elle ouvre la porte et sort. Un soir qu'elle rentre
chez sa mère. Elle est absente. Stéphanie monte à l'étage pour réviser dans sa chambre. Une heure plus tard, elle est assise à sa table à écrire. La porte s'ouvre d'un coup. Elle se retourne surprise. C'est son frère Félix. Qu'est-ce que tu veux ? Il fonce sur elle. Se penche. Tu n'es qu'une salope. Qu'est-ce que tu racontes là ? Je t'ai attendu à la sortie de l'école. Et j'ai été vu avec un homme. J'étais rentré dans un immeuble. Putain !
Et alors, ça ne te regarde pas.
Il la gifle. Et se redresse. Ton frère ne te suffit pas ? Elle se lève d'un bond. Et lui dit, sors de cette chambre. Pas avant de t'avoir dit une chose. J'ai besoin d'argent. Puisque tu fais la putain, tu me donneras ce qu'il te donne. Jamais. De toute façon, il ne me donne rien. Fais en sorte à ce qu'il t'en donne. Sinon, je dis à ta mère et à ton morveux. Tu iras en pension. Il sort de la pièce en claquant la porte. Stéphanie se rassoit et tape des pieds. Il tient plus qu'à tout au monde à son indépendance. Pour elle, la pension, c'est la prison. Puis elle se dit que malgré tout, Romain pourrait bien lui faire quelques petits cadeaux. Le lendemain, lui dit en s'habillant, « J'ai besoin d'argent, Romain. » Il continue à mettre ses chaussettes. « Oui, tu veux combien ?» Elle hausse ses épaules. « Je ne sais pas. Tu ne sais pas combien ça coûte, ce que tu veux acheter ?»« J'ai besoin d'argent, c'est tout. Bien. 200 ?» Elle fait vouer de la tête. Le soir, elle donne l'argent à son frère. Une semaine plus tard, c'est la mère qui l'aperçoit avec Romain. Le soir, elle questionne sa fille.
« Je t'ai vu avec un homme. Qui est-ce ? »
« Un ami. »
« Il a quel âge ? »
« 25 ans. »
« Fais attention, ma fille !»
Félix entre au salon. Il est ivre.
« C'est une putain, mère !»
Il s'approche d'elle en trébuchant.
Il lui donne de l'argent.
Stéphanie furieuse se lève.
Tais-toi, tu mens. Et l'argent que tu m'as demandé, que tu m'as donné, c'est toi qui m'as forcé à le lui demander. Tu es ivre, c'est pas ce que tu dis. Tu parles n'importe comment.
Qu'est-ce que cette histoire ?
La fille.
Rien, mère. Je veux savoir.
C'est Félix qui m'a vu avec Romain et me force à lui demander de l'argent.
La mère met la main à son visage. Elle se lève.
Ma fille, putain, monte à ta chambre.
Elle sort de la pièce. Puis la mère demande au fils,
dis-moi ce que tu sais.
Je sais tout, mère. Même où il habite.
Stéphanie étouffe. Elle est allée dans la chambre de son petit frère.
Il est assis à terre à faire des découpages dans de vieux journaux. Il s'assoit à terre à côté de lui. Il lui caresse les cheveux. Le lendemain matin, Stéphanie retrouve sa mère à la cuisine qui ne lui parle pas. Elle est partie assez court comme d'habitude. En fin de journée, Romain n'était pas à la sortie du lycée.
Oh.
Poussez-vous légèrement, s'il vous plaît. Hein? Poussez-vous un petit peu.
Rentrée chez elle, elle retrouve sa mère qui la reçoit les bras ouverts. « Que je suis heureuse, ma fille. J'ai rencontré ton homme. Nous avons parlé. C'est un homme charmant et qui t'aime. Il est aussi d'une famille très bien. Enfin, il a décidé, c'est de demander ta main. Bien sûr. » Tu es beaucoup trop jeune pour te marier, mais vous serez fiancés. Mais qui t'a dit que je voulais me fiancer?
Quoi? Tu ne veux pas te marier? Tu veux vivre avec cet homme comme cela? Il n'en est pas question. Ou c'est le mariage ou la pension. Et puis pour lui, ce sera, comme tu es mineur, la police des mineurs. Et il ira en prison.
Mère, c'est horrible ce que vous faites.
Non, ma fille. Lorsqu'on tient un futur gendre comme il faut, on le garde.
Stéphanie se dit qu'elle va en parler à Romain. Le lendemain, après le lycée, elle le retrouve à la sortie. Il lui dit, j'ai quelque chose à te dire. Ta mère est venue chez moi. Je sais, mais il n'est pas question que je me fiance. Je t'aime. Et puis, nous ne pouvons plus refuser, sinon ce sera la police ou la prison, la maison de correction pour toi, la prison pour moi. Elle voit qu'il n'y a plus rien d'autre à faire qu'à laisser faire.
Maintenant, pense en fait, j'ai pas fait mon devoir, je sais.
Romain lui a présenté sa famille. Elle l'a présenté. La télé, chez la famille de Stéphanie, il a fait la connaissance des deux frères. Félix lui a demandé de l'argent. Entre beaux frères, on peut, n'est-ce pas? Les jours passent, ils se voient toutes les fins d'après-midi. Elle aime toujours autant qu'il joue avec son corps. Mais elle a un arrière-goût d'amertume. Car sa mère et son frère lui demandent de demander de l'argent à Romain pour eux. Ce qu'il fait avec gentillesse, car il sait que la famille est pauvre. Un soir, Romain vient en visite chez les Durel. C'est la mère qui le reçoit.
Où est Stéphanie?
Elle est dans la chambre de son frère. Vous pouvez y aller si vous voulez.
Il monte à l'étage. Et pour trouver la chambre, il frappe à toutes les portes.
Entrez,
dit Stéphanie. Il entre. Voit la pièce dans la pénombre et le frère et la sœur au lit.
Stéphanie!
Oui, Romain.
Elle se lève. Pierre aussi et a rajusté sa chemise. Tu vois, beau-frère, elle aime beaucoup son petit frère. C'est Félix qui vient de lui parler derrière son dos. Romain se souvient de ce que lui a dit Stéphanie, qu'elle aime une personne qui ne peut se marier avec elle. Sur l'idée fait, elle et son frère, tout à l'heure dedans, cette chemise que l'on reboutonne. Dans la soirée, il les observe et voit que son frère est toujours près d'elle, qui lui prend la main, l'embrasse. Elle lui caresse ses cheveux. Malgré lui, il devient jaloux. Le lendemain, lorsqu'ils sont chez lui, il lui demande « Qu'a ton frère ?»«
Rien, il est un peu en retard, il a des difficultés psychiques. »
Poursuit-il ses études?
Il ne peut pas.
Que fait-il alors?
Rien.
Et plus tard, que va-t-il devenir?
Il sera près de moi, toujours.
Tu l'aimes?
Oui.
Plus que moi?
Oui.
Pourquoi? Parce qu'il a besoin de toi?
Moi aussi, j'ai besoin de lui.
Ce n'est pas la même chose. Il la prend par les bras.
Tu me fais mal.
Elle se dégage.
Ça ne changera rien, dit-elle.
Et elle se dirige vers la sortie de la chambre. Il la rattrape. Juste où elle va ouvrir la porte, il la gifle. Elle se penche son cou et lui dit « Maintenant embrasse-moi ». C'est ce qu'il fait. Une semaine plus tard, Romain est allé voir la mère. Elle l'a fait asseoir au salon.
Voilà, madame, j'aimerais vous parler de Pierre. Stéphanie aimerait absolument le garder avec elle, même une fois mariée.
Moi, personnellement, je ne le souhaite pas.
La mère hausse ses épaules.
Il n'y a pas que Stéphanie qui soit capable de s'occuper de lui.
Si vous ne pouvez le garder, mettons-le dans une maison.
Cela coûte cher.
Je payerai, madame.
Romain, une fois chez lui, il l'a conduit au salon. Et lui dit,
voilà, ta mère et moi avons décidé une chose. C'est de mettre dans une maison Pierre.
Quoi?
Oui, c'est pour son bien. Et pour toi, et pour moi.
Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Non, je ne veux plus.
Et elle court et sort de la pièce. Lui, lui court après. Elle est déjà partie. Il se dit, laissons-la seule, elle réfléchira. Une fois chez sa mère, qui est absente,
elle est montée à sa chambre et se jeter sur son lit et pleurer. J'en ai assez de jouer la putain pour ma famille. Et maintenant, mon frère, qu'ils vont sacrifier parce qu'il les gêne. Non, non, je ne veux pas. Une demi-heure plus tard, sa décision est prise. Elle se lève, prend sur l'armoire une valise, ouvre l'armoire pour remplir la valise. Puis, va dans la chambre de Pierre. Qui est au lit?
Bonjour Pierre. Bonjour Stéphanie. Pierre, nous allons partir toi et moi. Lève-toi et habille-toi tout de suite. Où allons-nous? C'est une surprise.
Pierre se lève. Une demi-heure plus tard, ils sont partis. Dans la soirée, Romain reçoit un appel téléphonique.
Allô? C'est Félix. Stéphanie n'est pas chez vous?
Non.
Vous ne savez pas, elle pourrait être?
Non, j'arrive.
La mère est assise dans un fauteuil et soupire. Le frère est debout. Adossé à la cheminée, Romain fait les 100 pas. Où ont-ils pu aller, mon Dieu? Partir comme ça avec son frère, comme ça? Le frère dit, en y réfléchissant bien, je crois savoir où elle est allée.
Maman, tu sais la maison de grand-mère?
Oui, mon petit.
Elle aimait beaucoup?
Oui, mais elle est abandonnée. Tu sais qu'elle va être détruite à cause de la route.
Félix regarde Romain.
On tente le coup?
Oui, allons-y.
C'est loin?
C'est à 3 heures de Paris. Absolument à ce que sa sœur se marie avec Romain à cause de sa fortune. Et Romain aime vraiment Stéphanie et ne veut pas qu'elle gâche sa vie à cause d'un frère débile. 3 ans plus tard, sur la route qui mène à Deauville, une maison au fond d'un parc abandonné, ils arrêtent leur voiture. Descendent, entrent dans le parc. Romain demande « Comment a-t-il pu faire pour venir jusqu'ici ?» Elle a dû demander à des automobilistes. Pas de bruit ni de lumière. Il frappe à la porte. Pas de réponse. La pousse, elle n'était pas fermée. Elle n'avait pas de serrure non plus. Ils entrent. Il fait noir. Romain crie « Stéphanie !» Pas de réponse. Il s'avance à tâtons, en évitant de faire du bruit. Tout semble délabré. Ils sentent à leurs pieds des déchets. Tout à coup, une porte qui claque. Félix se dit, c'est en haut. Il monte les étages, ouvre toutes les portes, à tâtons, dans le noir. Entend derrière eux
des pas. On descend les escaliers. Il court, les rattraper. Romain crie dans le noir, Stéphanie. Il entend qu'on marche aux étages. Il remonte. Stéphanie. Voit premier. On n'entend plus rien. Puis, une porte qui claque dans le noir. On n'y voit rien. Romain la rouvre. Félix est derrière lui. Les volets n'ont pas été fermés. La lune est claire. Il voit en ombre chinoise Stéphanie et Pierre. Romain et Félix s'avancent vers eux. Stéphanie et Pierre ont reculé. Pierre crie, « Je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on me mette dans une maison. » Ils reculent devant Romain. Stéphanie se met entre eux. Tout à coup, un bruit de vitre. Cri de Pierre qui vient de se jeter par la fenêtre. Cinq ans plus tard, dans un grand hôtel de luxe sur la Côte d'Azur, le Negresco, deux femmes très distinguées d'un certain âge sont assises au salon. Elles voient arriver un couple, une des femmes dit,
regardez, ma chère, les Landrier, Romain et Stéphanie Landrier, le couple le plus élégant de la Côte d'Azur, près de Paris.
Ils sont très unis, ils ne se quittent jamais.
J'espère que vous passerez d'agréables vacances.
Mais c'est des mauvaises.
Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. La clé du professeur Aschenbach.
Mon Dieu, mais c'est mauvaise langue qui le dit. Elle est d'une famille très modeste et qu'elle a connue avant son mariage.
Le temps est merveilleux en ce début
de grands amours. Il part.
J'espère que vous passerez d'agréables vacances.
Mon Dieu, mais c'est mauvaise langue qui le dit. Elle est d'une famille très modeste et qu'elle a connue avant son mariage.
Le temps est merveilleux en ce début de
grands amours. Il part.
J'espère que vous passerez d'agréables vacances.
Il paraît qu'ils vont partir un mois en Amérique, régler quelques affaires et voir des amis. Sont des gens charmants.
Je vous en prie.
Radio Canu vous a présenté, dans sa série d'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre. Pierre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Enregistrement, C. V.